Vivre, analyser, décrypter l'actualité, toute l'actualité. Le 17-19, le mag, du dimanche au mercredi, de 17h à 19h, sur ALG chaîne 3. 17-19, le mag, 2h de direct, présenté par Mounine Larraj et réalisé par Adil Awissi.
passé de 6 minutes sur les ondes d'Alger Chien 3. Toutes et à tous, merci de nous retrouver. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'actualité. Toute l'actualité, le 17-19 Le Mag, en direct avec vous jusqu'à 19h. Avec vous et en direct jusqu'à 19h, 2h durant, pour vivre, analyser, décrypter l'actualité. Toute l'actualité, avec nos journalistes et chroniqueurs. Il sera question aujourd'hui de la guerre politico-médiatique menée par la France contre l'Algérie qui semble durer dans le temps et qui prend de nouvelles dimensions dans la chronique politique avec Hassan Qassimi aujourd'hui dans le 17-19 Le Mag de ce lundi 26 mai. Et vous l'aurez remarqué, nous vivons une alternance pluie, soleil, froid, chaleur vécue ces derniers jours, qui sont le parfait exemple de bouleversement climatique et qui ont pour origine le réchauffement de la planète. Aujourd'hui, Hamid Belkacem, dans l'indice sévère chronique du développement durable, va nous parler de trois destinations, notamment dans le pays, ou plutôt dans le continent asiatique, et cap sur l'Irak notamment. Et dans l'instant santé avec Hassan Chemachi, il sera question du thème de la cardiologie interventionnelle. Qu'est-ce que la cardiologie interventionnelle qui se développe bien dans notre pays? Réponse dans cet entretien, ou plutôt dans l'entretien qu'a tenu Hassan Chemachi avec le docteur Boutaguen de Constantine. Et dans la série de reportages avec Samia Aloun, nous allons parler des étudiants algériens issus de plusieurs universités, écoles du pays, distingués à Shenzhen, en Chine, et à l'occasion de la compétition Huawei e-ICT, qui a accueilli moins de 200 000 participants venus de 114 pays, où les étudiants qui se sont distingués avec des spécialités et concepts qui sont au cœur, de la stratégie de la transformation. Transformation numérique, bien évidemment. Et un jour, un correspondant, correspondance depuis Chilef, et nous allons parler de l'épuration des eaux usées, son importance et ses utilisations. Restez avec nous. Et au volet culturel, nous allons parler avec Nadia Siassi, notamment des trésors de la peinture orientaliste. Ce sont des tableaux de collection qui nous replongent dans notre Algérie d'antan et qui montrent les richesses de notre patrimoine à découvrir ou à redécouvrir à la Galerie Mohamed Al-Assim à Alger. Sans oublier l'actualité sportive, toute l'actualité sportive avec la rédaction Sport 2, la 3, en deuxième heure de votre magazine. Retro Hits avec Tarek Falcoun. Voilà, le décor est planté de ce 17-19 Le Mag de ce lundi 20 mai 2025. Merci de vous brancher à Alger Chien 3, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui est à la régie d'antenne Céline Gasseb, la joyeuse et la pétillante Céline Gasseb. À la console technique, bien évidemment, notre ami et frère Habirash Sadir, à la réalisation de votre magazine jusqu'à 19h, j'ai nommé Elle est là aussi.
Sunshine.
Milk and sugar, let the sun shine. En tout cas, le soleil ne se fait pas prier avec de magnifiques éclaircies après un week-end, on va dire, un peu mitigé. Mais en tout cas, c'est un ciel bleu et soleil pour tout le monde dans la majeure partie des quatre coins du pays. Il est 17h14 sur les ondes d'Alger Chien 3, sur Alger Chien 3. Hier, on célébrait la fête des mamans. À toutes les mamans, bonne fête et longue vie pour celles qui sont toujours de cette vie, et paix sur les âmes de ces belles âmes qui nous ont quittées. Très très bonne fête, n'oubliez pas, même si il n'est jamais trop tard pour bien faire, ne serait-ce qu'une petite rose, ça fait toujours plaisir à nos chères mamans. Et bonne fête à toutes et à tous. Et j'imagine rien que pour ça, Lina Wissi va nous programmer une très belle chanson pour les mamans. Je le disais aujourd'hui avec Hassan Qassimi dans la chronique politique, nous allons revenir sur un thème qui défraie la chronique, notamment, ou plutôt en l'occurrence la guerre politico-médiatique menée par la France contre l'Algérie qui semble durer dans le temps et qui prend de nouvelles dimensions, Hassan.
L'extrême droite française s'emballe de manière violente et belliqueuse à l'égard de l'Algérie, déclarant à notre pays une guerre médiatique et politique perverse, reflétant l'image d'une classe politique de l'extrême droite française qui régresse et qui tombe dans les travers d'une idéologie identitaire, raciste et radicale. Mmh. Cette campagne de dénigrement médiatique prend les allures d'une guerre coloniale contre un État souverain, l'Algérie, indépendant, qui cherche à effacer toutes les traces du passé colonial en Algérie. L'extrême droite française n'a pas encore compris que l'Algérie a changé et que son élite politique est intransigeante dans ses relations avec la France.
Avec la France, Hassan Qassimi, des moyens impressionnants sont mobilisés en France pour affaiblir l'Algérie, Hassan.
Tout est mobilisé pour la cause coloniale. Mmh. Les services, les patrons, les manières des médias français ont mobilisé la meute des scribouillards, faisant de l'agitation sur les chaînes de télévision de la propagande. Des maisons d'édition comme Gallimard sont également dans la danse de la meute des loups, en faisant de l'agitation sénile pour soutenir sans salle les harkis de la France, comme Farhat Mehdi, qui constitue la nouvelle légion des ouaves, des harkas, des agents de la DGSE. Oui. L'extrême droite française constate avec fort regret que l'Algérie n'a pas été affaiblie. Elle est unie plus forte que jamais dans une trajectoire irréversible et ascendante que personne ne peut arrêter.
Et Hassan Michel Apathy qui avait dit la vérité, toute la vérité en France, passe pour le nouveau martyr de la liberté d'expression. Il a osé avec beaucoup de courage défier les nouveaux formats médiatiques qui menacent la démocratie dans ce pays, Hassan.
La France à 1658 ressortissants emprisonnés à l'étranger. Mais personne en France ne les défend. Théo Clerc, un artiste français condamné à 3 ans de prison dans un pays en Asie, a été abandonné. Et personne n'est allé le défendre ou organiser des manifestations publiques ou faire circuler des pétitions pour demander sa libération. Oui. Un petit exemple sur tant d'autres qui nous démontre que les lobbies sionistes qui dirigent actuellement la France ne défendent pas les intérêts des Français. Plus grave encore, sur les plateaux de télévision, ces mêmes lobbies sionistes dénient à tout Français le droit d'exprimer librement son opinion, sous peine de se voir infliger les pires punitions.
Et la France officielle, Hassan Qassimi, semble défendre la cause d'un seul prisonnier et occulte gravement la situation de milliers de Français emprisonnés dans ce pays étranger. Pourquoi ce double standard, vous le disiez? Et je le disais, Michel Apathy, en France, passe pour le nouveau martyr de la liberté d'expression. Il a osé et avec beaucoup de courage défier les nouveaux formats, je le disais, médiatiques qui menacent la démocratie dans ce pays.
La tyrannie médiatique des lobbies sionistes est installée en France depuis fort longtemps et elle sévit contre des milliers d'intellectuels et de libres penseurs français qui ont été blacklistés dans le champ médiatique et de l'audiovisuel. Michel Apathy n'a fait que rappeler des vérités historiques sur les crimes de guerre de la France en Algérie. Michel Apathy a été poussé à la porte de sortie de manière expéditive, sans ménagement et sans formalité. Le célèbre journaliste, animateur et chroniqueur Thierry Ardisson, qui a dit que Raza est la nouvelle Shoah, a subi les foudres des lobbies sionistes de France qui l'ont contraint à retirer ce qu'il a dit en s'excusant avec beaucoup d'humiliations en France, un tintamarre médiatique assourdissant cible l'Algérie, qui avance d'un pas sûr et qui a mis fin à tous les privilèges coloniaux de la France en Algérie.
Merci beaucoup Hassan Rassimi, ce qui est sûr, ce ne sont pas, on va dire, de petits agitateurs sur des plateaux télé qui vont déstabiliser tout un pays tel que l'Algérie et son peuple. Merci beaucoup, c'était donc là Hassan Rassimi, la chronique politique autour de la guerre politico-médiatique menée par la France contre l'Algérie et qui semble durer dans le temps et qui prend de nouvelles dimensions. Et à suivre dans le 17-19, le mag en direct avec vous à 17h19, je le disais, indice vert. La chronique du développement durable aujourd'hui avec Hamid Belkacem va nous parler de cette alternance pluie, soleil et froid, chaleur vécue ces derniers jours qui sont le parfait exemple des bouleversements climatiques. Et on va partir, et on a choisi trois destinations à découvrir juste après cette très belle chanson. Tu as acheté le une reprise du regretté Azdin Wilchilef Chemsoufliklen. À l'écoute d'Alger Chien 3. Voilà, c'était une petite, un petit clin d'œil, une petite pensée à toutes les mamans qui ne sont plus de ce monde et en célébrer, je le disais hier, la fête de la maman. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous avez oublié hier, comme à chaque dernier dimanche du mois de mai, aujourd'hui, vous pouvez offrir à vos chères mamans de petites fleurs. Un petit geste fait toujours plaisir à une maman. Et on continue notre programmation, place tout de suite à l'instant santé avec Hassan Chumash.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Science et santé à 17h24 minutes passées de 30 secondes. On va parler dans l'instant santé avec Hassan Chumash de la cardiologie interventionnelle. Qu'est-ce que la cardiologie interventionnelle qui se développe bien dans notre pays? Réponse avec, ou plutôt dans cet entretien avec Hassan Chumash et son invité, le docteur Boutaguen de Constantine.
Docteur Boutaguen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue interventionnel.
Exactement.
Vous travaillez à Constantine.
Absolument, c'est ça.
Docteur Boutaguen, qu'est-ce que c'est que la cardiologie interventionnelle?
C'est une sous-spécialité de la cardiologie qui consiste à intervenir au niveau des différentes structures du cœur, les artères coronaires, les valves, les n'importe quelle structure au niveau du cœur, sans avoir à ouvrir le cœur, uniquement par voie percutanée. Et c'est une spécialité qui est en ce moment en plein essor dans notre pays. Cela va dans l'intérêt des patients. Nous savons bien que c'est notre population est de plus en plus vieillissante et l'âge moyen augmente. C'est ce qui aboutit finalement à une augmentation de cette pathologie cardiovasculaire qui est liée essentiellement à l'âge.
On peut prendre en charge toutes les pathologies cardiaques avec la cardiologie interventionnelle?
Je dirais pas toutes, parce que la chirurgie cardiaque garde quand même une place dans la prise en charge de ces pathologies cardiaques. Il y a des pathologies, notamment chez le sujet jeune, et dans certaines situations où il faut quand même opérer. Mais pas mal de pathologies sont maintenant éligibles à un traitement par cardiologie interventionnelle.
Quels sont les avantages de la cardiologie interventionnelle?
Alors, essentiellement, si on prend un petit peu l'intérêt de cette cardiologie interventionnelle, c'est surtout dans le traitement des phases aiguës de l'infarctus du myocarde, où là, vraiment, la cardiologie interventionnelle peut sauver le malade et peut éviter des complications dramatiques des infarctus du myocarde.
Vous avez dit que c'est une spécialité qui est en essor dans notre pays. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour sauver des malades, pour prendre en charge de nos malades.
Alhamdoulilah, je peux dire nous avons tous les moyens qui sont nécessaires pour effectuer ces interventions qui sont en ce moment innovantes, des techniques innovantes telles que l'arythmologie interventionnelle, la cardiologie interventionnelle coronaire, structurelle, valvulaire. Nous avons un staff qui nous permet de prendre en charge ces pathologies et d'exercer et de faire profiter à nos patients des dernières technologies.
Vous participez à des formations à l'étranger, docteur?
Nous sommes souvent invités par des partenaires industriels ou par les sociétés savantes à des workshops ou à des ateliers qui se font à l'étranger. Nous ne pouvons pas nier que dans certains pays où il y a une bonne expertise dans ce domaine, et ça nous permet d'importer un petit peu ces techniques ici dans l'intérêt bien sûr de nos patients.
C'est de la formation continue?
Nous sommes en perpétuel processus de formation. C'est un processus qui ne s'arrête pas. Ça change tous les jours, que ce soit sur le plan médicamenteux, que ce soit sur le plan technique, sur le plan matériel, le cardiologue interventionnel ou le cardiologue de façon générale doit être à la page.
Vous formez autour de vous les jeunes cardiologues?
Absolument. On a formé et on continue à former. On continue à former le paramédical, on continue à former des médecins généralistes dans la prise en charge des urgences, notamment cardiovasculaires. Et on a même un programme de formation pour les jeunes étudiants en spécialité.
Parfait. Un dernier mot, adressez-vous aux jeunes chirurgiens et aux jeunes étudiants, ceux qui veulent suivre cette spécialité.
C'est une belle spécialité. Moi, je vous conseille aux étudiants de se frotter un petit peu à cette spécialité, de voir ce que c'est, d'essayer. C'est comme ça que ça s'est fait pour moi. Et après, ils se constitueront une idée sur leur envie ou pas de se spécialiser en cardiologie interventionnelle. Mais essayez, allez voir et je suis sûr que vous allez aimer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est un plaisir.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
17h29, c'était donc l'instant santé avec Hassan Chemach et son invité, docteur Botaguin de Constantil, spécialiste en cardiologie interventionnelle, qui répondait aux questions de notre journaliste. On parlait de cette sous-spécialité de la cardiologie et qui évite notamment et dans plusieurs cas la chirurgie, notamment pour la population, ou plutôt les patients qui sont de plus en plus, une population plus, de plus en plus vieillissante selon les propos de docteur Botaguin. Et aujourd'hui, c'est une spécialité sous-spécialité qui règle beaucoup de problèmes de cardiologie. À suivre, Indice Vert, la chronique du développement durable avec Hamid Belkhassem. Mais en attendant, Daft Punk, One More Time.
Celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate.
One more time, les Daft Punk à 17h34 dans le 17-19, le mag, jusqu'à 19h, restez avec nous. Et c'est la fin des classes pour les élèves de primaire, également du collège et lycée, excepté ceux qui se préparent pour les examens officiels, notamment le BM et le BAC. Nous leur souhaitons bonne chance et bon courage dans leur révision générale. Pas uniquement les élèves qui stressent, les parents avec. Bon courage à vous aussi et ceux et celles qui captent les ondes LGCHN 3. Merci pour votre fidélité, surtout ceux qui sont sur la route. Roulez doucement, nous sommes avec vous jusqu'à 19h. Aujourd'hui dans Indice Vert, la chronique du développement durable en ce 26 mai 2025, Hamid Belkacem aujourd'hui va parler de, allez, ces changements, j'ai envie de dire, l'alternance pluie, soleil, froid, chaleur, vécue ces derniers temps sont le parfait exemple des bouleversements climatiques qui sont, qui ont pour origine le réchauffement de la planète. Aujourd'hui, vous avez Hamid Belkacem choisi trois haltes. Trois destinations et on commence par le continent asiatique et cap sur l'Irak.
L'Irak, Babylone, berceau de la civilisation. L'Irak, ce sont aussi deux fleuves mythiques, le Tigre et l'Euphrate. Les changements climatiques ont fait que le débit de Dejla ou l'Euphrate chute de manière vertigineuse. Résultat, les réserves d'eau d'Irak sont au plus bas depuis 80 ans. La pénurie d'eau va obliger le gouvernement irakien à limiter la superficie des champs cultivés. L'Irak souffre de températures en hausse et d'épisodes de sécheresse qui s'enchaînent depuis au moins 5 ans. En réalité, cette baisse des ressources hydriques n'a pas pour seule et unique origine les changements climatiques. Il se trouve que des voisins de l'Irak ont construit des barrages. Situés en amont, ces barrages limitent fortement le niveau du Tigre et de l'Euphrate. Conséquence directe, les barrages des voisins réduisent de 40% les quantités d'eau qui devraient arriver en Irak. Et à la veille de l'été, le problème est crucial puisque l'Irak ne dispose que de 10 des 18 milliards de mètres cubes d'eau nécessaire. Si l'alimentation en eau potable est garantie pour les Irakiens, le déficit sera très difficile, voire impossible à combler pour l'irrigation des cultures stratégiques comme le riz ou le maïs. Boire ou se nourrir, véritable dilemme.
Véritable dilemme, Hamid, et la gestion de l'eau en zone frontalière est un véritable, ou plutôt une véritable bombe à retardement. D'Irak, on met le cap sur l'Europe. Hamid Belkacem.
Oui, le nord de l'Europe, plus précisément la région comprise entre l'Écosse et les Pays-Bas, où une sécheresse jamais vue depuis des décennies frappe depuis plusieurs semaines. Conséquence, le futur agricole incertain pour les agriculteurs. Il faut dire que la croissance est limitée lorsqu'il y a un déficit en eau dans les champs de blé, de maïs, de colza ou d'orge. Dans le nord de l'Angleterre, les niveaux des réservoirs d'eau sont particulièrement, voire exceptionnellement bas, selon l'Agence de l'environnement. Aux Pays-Bas, les pluies n'ont jamais été aussi rares depuis le début des relevés en 1906. Au Danemark, où l'Institut météorologique a prévenu début mai que les trois derniers mois avaient été exceptionnellement secs avec moins de 63 mm de pluie enregistrée. Depuis 1874, il n'est arrivé que 7 fois que la période de février-avril ait moins de précipitations, idem en Suède.
Idem en Suède, et le climat mondial se détériore, mais j'espère, Hamid, que la troisième et dernière destination va nous apporter quelque chose de positif, Hamid.
Oui, on va aller voir les manchots. Les manchots, ces oiseaux emblématiques du pôle sud, contribuent à la régulation du climat de l'Antarctique, territoire isolé et particulièrement vulnérable au changement climatique, via leur excréments, révèle une équipe de chercheurs. Alors, selon cette étude, publiée très récemment dans Earth and Environment, le guano, cocktail d'urine et de manière fécale des manchots, très riche en ammoniac, contribue à la formation de brouillards et de nuages au-dessus du continent blanc, influant par là même sur les températures. Voilà, preuve que la nature nous surprendra toujours par ses solutions, même les plus inattendus. À demain.
Même les plus inattendus. Merci beaucoup, Hamid Belkacem. Merci pour ce thème qui à chaque fois nous secoue et nous rappelle malheureusement les faits directs et indirects des changements et du réchauffement de la planète. Merci beaucoup. À 17h40, à suivre la série de reportages avec Sami Alloun, et on va parler de la participation des étudiants algériens à Shenzhen en Chine qui se sont distingués par leur talent et savoir-faire. Faire en attendant musique. Goulette, on ne sait pas, mais c'est Hakim Salhi qui a la réponse.
في قلبي مصمم بعد شحال من مرسوم بقعت لي اسمعيت راه الوحش قتلني زادني هم على هم اللي بغاها قلبي ولات ولات نبقيها وشهد ربي ولات ولات غير هي اللي تفهمني قلب حميرة ويساعدني راهي ولات اللي تبغيني غير هي اللي تفهمني أنا وياك ما كناش غاية سمحت في روحي ومع الوقت صبات لي كل شيء نستنى وقتاش وندعي باش تولي ليا تتسقى ليا ننسى وكل ما صار شيء اللي بغاها قلبي ولات ولات نبغيها وشهد ربي تبغيني غير هي اللي تفهمني انوي الخير كيما انا والنية صفيها شمعتنا تكون ضوايا انت ديري الفور وحياتنا خليني جيريها معايا تتهني وان شاء الله ما تخصك حياة اللي بغاها قلبي ولات ولات نبغيها والشاهد ربي ولات ولات غير هي اللي تفهمني
Et dans l'actualité musicale, c'est la dernière, le dernier titre en date de Hakim Salhi, avec de magnifiques sonorités incitantes à passer un week-end à l'ouest du pays avec du LAOI. Hakim Salhi sur les ondes d'Alger Chien 3 à 17h44 dans le 17-19 Le Mag. Et à 17h44, je le disais, des étudiants algériens issus de plusieurs universités et écoles du pays, distingués à Shenzhen en Chine, et ce à l'occasion de la compétition Huawei ICT, qui accueillit pas moins de 200 000 participants venus de 114 pays. Les étudiants se sont distingués avec des spécialités et concepts qui sont au cœur de la stratégie de transformation numérique du pays, à savoir l'intelligence artificielle, le big data ou encore la cybersécurité, nous dit Samia Aloun.
Des spécialités au cœur de la stratégie de transformation numérique du pays, la modernisation des systèmes et processus implique le recours à des concepts sophistiqués pour rendre l'information ou le service en question plus fluide en exploitant l'intelligence artificielle, le big data, ainsi que les différentes sphères de l'informatique. Participer à interconnecter des systèmes, à les protéger contre la moindre menace cybernétique, une tâche qui nécessite une ressource humaine compétente, qualifiée et formée de telle sorte à rester au diapason des différentes mutations et changements dans les quatre coins du monde. Abdelkrim Chbieb, directeur adjoint chargé des relations extérieures à l'École nationale supérieure d'informatique.
Ces spécialistes-là seront dans le futur au cœur de la stratégie de transformation digitale du pays, certainement. Ils pourront être un levier de cette stratégie. Il faut donc encore encourager davantage ce genre d'initiative et encourager chez nos étudiants l'esprit de la création. Tout est mis en œuvre dans l'école et par la tutelle que ces futurs ingénieurs puissent être à la hauteur et à l'avant-garde de cette transformation digitale.
Des performances qui traduisent le potentiel d'une jeunesse qui aspire à se développer davantage dans les spécialités liées au TIC. Une innovation à la fois, à même de renforcer l'écosystème numérique du pays. Djelal Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité.
Miser sur la connaissance et d'abord reconnaître que la technologie n'est qu'un outil. Ce sont les femmes et les hommes qui la portent, l'adaptent et l'améliorent au service du développement national. Former à accompagner nos talents dans des domaines de pointe comme le cloud ou la cybersécurité, c'est créer une base solide de compétences capables d'imaginer, de construire et de sécuriser l'écosystème numérique de demain. Cela permet de renforcer notre souveraineté numérique et d'accroître la résilience face aux cybermenaces croissantes. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins actuels du marché et d'anticiper les défis futurs en dotant le pays de ressources humaines qualifiées, agiles et cyber-résilientes.
Les performances des étudiants algériens dans des concours internationaux confirment l'émergence d'une myriade de compétences solides dans des domaines stratégiques comme le cloud, la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. Ces réussites, issues d'universités et d'écoles réparties à travers le pays, témoignent du niveau croissant de la formation technologique nationale, participant par la même occasion à l'accélération de la transformation numérique du pays.
minutes, c'était la Samia Aloun et dans ce reportage qui revenait sur la participation des étudiants algériens issus de plusieurs universités et écoles qui se sont distingués et distingués également à Shenzhen en Chine à l'occasion de la compétition Huawei ICT qui accueillit, je le rappelle, pas moins de 200 000 participants venus de 114 pays. Les étudiants de nos universités et écoles respectives se sont distingués avec des spécialités et concepts qui sont au cœur de la stratégie de transformation numérique du pays, à savoir l'intelligence artificielle, le big data ou encore la cybersécurité.
Thank you.
بلاد بلادي خاوة ما تفرقوا مع الدواء وما يوم عناد دحاوة الجزائر. سي مانيفيك باساج دو سيت تري بيل شانسون كي راست انتر اوتر هيمن دو لا شانسون الجيريان سيني لو ريغريتي لو غران رابح درياز سور الجيشان 3. Et c'était notre petit clin d'œil à nos étudiants qui se sont distingués et distingués à Shenzhen par leur savoir-faire et leur talent lors de leur participation en Chine. Merci, un grand grand merci et chapeau bas. Allez, place à un jour, un correspondant à destination chez le fait. On va parler de l'épuration des eaux usées, leur importance et utilisation, contrôle de qualité, notamment à travers les stations d'épuration. Reportage autour du sujet, signé Rémi Rahmani depuis Chlef.
L'Office national de l'assainissement ONA gère aujourd'hui un parc de 183 stations d'épuration à travers le territoire national qui totalise 1 milliard de mètres cubes par an en termes de capacité nominale. L'ONA est devenu un acteur incontournable qui investit non pas uniquement dans la protection de l'environnement à travers la gestion et l'exploitation des stations d'épuration et les réseaux d'assainissement, mais également leur fonction s'est élargie à la faveur de la valorisation des eaux usées et épurées. Fouad Lajel, conseiller auprès du directeur général de l'Office national d'assainissement.
Effectivement, à la faveur de l'engagement de Monsieur le Président de la République de réutiliser les eaux usées et épurées, l'Office national de l'assainissement se retrouve au devant pour assurer l'économie et la sécurité de l'eau. Il faut noter que l'Algérie, à l'instar des pays du pourtour de la Méditerranée, traverse quand même un contexte de stress hydrique, ce qui a fait réagir à temps les hautes autorités du pays à tracer une stratégie durable qui est déjà concrétisée sur le terrain avec la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, la réalisation des stations d'épuration pour répondre aux soucis de l'environnement, mais également toute l'eau produite sera réutilisée dans le domaine agricole principalement, mais également pour les autres usages. L'industrie, les usages récréatifs, municipaux, par rapport à la réticence des agriculteurs ou bien des usagers, je tiens à les tranquilliser parce que cette pratique, elle est vraiment réglementée. Cette réutilisation doit obéir à des normes très strictes en matière de qualité de l'eau, de réutilisation, de pratique.
Et afin d'avoir une eau propre de bonne qualité prête à être utilisée, les stations d'épuration ont été dotées de laboratoires de dernière génération pour traiter et contrôler l'eau, nous dit Majid Mhigan, enseignant à l'université de Khmisminyana.
Le terme épuré, ça veut dire que cette eau, elle est passée du traitement physique premièrement, biologique, et puis après microbiologique. Donc cette eau, elle est saine et sauf pour l'irrigation et même il y a des traitements avancés pour la réutiliser dans le domaine industriel. Certains pays avancés dans la technologie peuvent avoir donc cette eau destinée à l'AOP et peuvent utiliser même l'eau épurée et même la boue activée comme résiduaire, comme ressortissant résiduaire de la station ou de la STEP, la station d'épuration des eaux usées, dans certains types de cultures telles que l'arboriculture. Il y a des travaux sur la santé humaine et la santé du sol et même la santé de l'arbre. Donc il n'y a aucun problème de point de vue microbiologique, même de problème de métaux lourds. Ça, c'est approuvé. Donc on a un type de culture et la méthode d'irrigation. Elle est très importante. Puis, le choix et la méthodologie de choix de type de culture à irriguer. Il y a des travaux de thèse de doctorat à l'université de Khmisminyana qui ont donné des satisfactions de point de vue absence de risque de maladie de cette ressource en eau non conventionnelle.
Et revenons à M. Fouad Lajel, conseiller auprès du directeur général de l'ONA.
La goutte d'eau, maintenant, ce n'est même pas une question d'argent parce que l'eau est liée à la sécurité de tout pays. Je pense qu'avec la politique visionnaire prise par l'Algérie, va permettre de placer l'Algérie justement dans une situation, je ne vais pas dire de confort, mais sécurisée en matière de ressources en eau. C'est une stratégie qui est cohérente parce qu'il y a une prévision par rapport au bassin méditerranéen qui va vivre justement un stress de plus en plus marqué. Donc l'Algérie a pris les devants justement. On voit maintenant les projets qui sont en train de voir le jour et nous aussi on doit répondre pour qu'il y ait une gestion, pour qu'il y ait un fonctionnement durable de ces infrastructures.
Et les eaux usées et épurées sont valorisées en agriculture grâce à leur composition riche en matières organiques et minérales. En effet, l'irrigation par ces eaux permet de limiter l'utilisation d'engrais et peut être utilisée pour tout type de culture, maraîchage, forêt et autres industries. Shlef Rimarhmani, Al-Jazeera 3.
Et c'était la correspondance de Limar Rahmani depuis Shlef dans un jour, hein, correspondant à 17h55 minutes sur les ondes d'Al-Jazeera 3 dans le 17-19 le Mac jusqu'à 19h en direct avec vous. Et on parlait d'épuration d'eau et qui dit épuration d'eau, c'est donc le traitement physique, physique, biologique et puis microbiologique pour l'utilisation notamment dans l'irrigation agricole avec ce stress hydrique que connaît plusieurs régions du pays. Il faut se référer à cette opération-là, notamment pour l'irrigation, je le disais, agricole et qui va nous permettre d'éviter certains engrais. Dans moins de 4 minutes, rendez-vous avec Nesrine Dahmoun et le sommaire de l'édition du soir. Mais en attendant, je vous laisse avec ce magnifique duo signé Milano et le grand et talentueux qui restait égal à lui-même avec ce magnifique talent, et sa très belle voix cristalline. J'ai nommé moi Polyphène.
ونكمل حياتي نورمال انا يا هاني وانتي يا درا كملي فيها ومبروك عليك الوطن يا العذراء عندك خسرات باينه ويا الخاينه كيف الاسهم ترمي نظرات بالغدر
À 18h dans le 17-19, le mag, il est l'heure de retrouver Nesrine Dahmoun pour le sommaire de l'édition du soir. Nesrine Dahmoun, bonsoir.
Bonsoir Mounir Ardi, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside ce lundi une réunion de travail consacrée à la mise en service du guichet unique. Le général Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en visite de travail et d'inspection dans la deuxième région militaire. Le ministre du Travail présent ce lundi à l'Assemblée populaire nationale. Il a présenté le projet de loi relatif à la réduction de l'âge de la retraite dans le secteur de l'éducation. Numérisation de l'administration foncière. Le livret foncier électronique remplacera graduellement le format papier, annonce le directeur général des domaines qui était l'invité du forum de la chaîne 1 aujourd'hui. Ouverture du 23e Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie avec la participation de 800 opérateurs algériens et étrangers issus de 40 pays dans l'Italie, invités d'honneur de cette édition. À l'étranger, dans le dossier palestinien, le Hamas pourrait accepter une nouvelle proposition des médiateurs pour une trêve de 70 jours contre la libération d'une dizaine de prisonniers de guerre israéliens. Les nouveaux droits de douane annoncés par le président américain pour le début du mois de juin, reportés au 9 juillet, les négociations se poursuivent aujourd'hui entre Washington et Bruxelles. Enfin, sport football, suite de la 27e journée de la Ligue 1, deux rencontres au programme US Biskra MCO qui vient de commencer et à 20h, l'USMA va affronter l'Olympique Arbo.
Merci beaucoup Nassaline Lahmoun. Le développement de ces titres et d'autres à 19h à travers l'édition du soir. L'info continue dans le 17-19, le mag à 18h02. Flamme Nord et les nouvelles du ciel.
Soleil prédominant et température assez élevée pour les prochaines 24 heures et même jusqu'à vendredi au moins. Au Sahara, il pourrait pleuvoir légèrement sur le sud-ouest et le Hogar Tassili. Il fera 30 degrés à Alger, Al Bayad et Boumerdès, 29 degrés à Burj Bar, Ridj et Djelfa, 28 à Mostaganem et Umm El Bougi, 27 à Annaba et Skikda, 31 à Betna et Bouira, 32 à Constantine et Hassermel, 33 à Saïda et Boussaada, 35 degrés à Sidi Bla Abbès, 37 à Mascara, 39 à Tamanrasset et Adrar et 45 degrés à Ain Ghazem. Ce soir, autour de 15 degrés au nord du pays et de 25 degrés au Sahara. Et la mer sera belle tout le long du littoral.
À 18h03, c'était la Karima Benour et les nouvelles du ciel. Nous entamons ensemble la deuxième heure de votre 17-19 Le Mag, en attendant bien évidemment Ali Hamouche pour l'actualité sport, toute l'actualité sport. En attendant, musique. Woodkid, I love you.
See me too, 'cause I love you. too. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways of love, is there a trace of you? Where are you?
Il est 18h07 et l'heure de retrouver, bien évidemment, notre ami, le grand Ali Hmouch, j'ai nommé. Bonsoir Ali, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé ensemble.
Bonsoir Mounia, ça fait un bon moment, effectivement.
Alors, je retiens une date. Mais en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de retrouver cette force tranquille de la rédaction sport de la 3. Et on entame cette page sport avec du football. Ali Hmouch, suite aujourd'hui de la 27e journée du championnat de Ligue 1.
Une suite qui a déjà débuté, plus exactement à 17h45 avec ce premier match entre l'US Biskra et le Mouloudia d'Oran. On joue la 22e minute de jeu et c'est le Mouloudia d'Oran qui mène 1-0. On rappellera que l'US Biskra qui a déjà les deux pieds en Ligue 2 puisqu'elle occupe la toute dernière place du classement avec 20 points. Alors que le Mouloudia d'Oran, en cas de victoire aujourd'hui, elle grimperait tout simplement à la 9e place avec 34 points, dépasserait l'Aïsochlef, le CS Constantine. Le Mouloudia d'Oran qui occupe pour le moment, bien avant cette journée, la 11e place avec 31 points, ex-aequo avec l'USM Khenchla. Et pour le moment, le Mouloudia d'Oran qui tient le bambou dans cette rencontre face à l'US Biskra. La deuxième rencontre du jour mettra aux prises à 20h au stade du 5 juillet. Une rencontre qui se jouera à huis clos. L'USM Alger, 6e au classement avec 36 points. L'Olympique de Erbou, 14e au classement avec 28 points. L'Olympique de Erbou, plus que jamais menacé par la relégation, puisqu'elle compte un point d'avance seulement sur le premier relégable, le Nejm de Magra, qui lui compte 27 points. Donc un résultat positif pour l'Olympique de Erbou aujourd'hui est impératif pour rester en Ligue 1, pour augmenter ses chances de maintien, alors que pour l'USM Alger, une victoire aujourd'hui lui permettrait tout simplement de se hisser à la 4e place au classement, juste derrière le Chabab Riadi de BZ avec 39 points. On reste avec la Ligue 1, puisque hier il y a eu trois matchs qui se sont joués avec la bonne affaire réalisée par la JS Kabylie qui est allée s'imposer à Magra 3-1. Donc une victoire qui permet à la JS Kabylie de consolider sa deuxième place au classement avec 49 points. Et elle réduit l'écart avec le leader de 3 points, le Mouloudia d'Alger, qui compte 52 points et creuse l'écart avec le Chabab Riadi de BZ à 4 points. Sur cette victoire, on va écouter le milieu de terrain de la JS Kabylie, Mehdi Boujma.
Je pense qu'on a bien commencé. Ensuite, on a concédé un but qui nous a fait mal, mais je pense qu'on avait besoin de ce but peut-être pour rentrer dans le match. Et ensuite, voilà, on a joué notre football, on a commencé à poser le jeu et on a vu que voilà, les occasions se sont créées, les espaces aussi. Et puis ensuite, nos attaquants ont bien fini devant quand il fallait. Ouais, 3 points très très importants. On sait que le CRB derrière nous a 1 point, donc il fallait vraiment pas faire de faute aujourd'hui. Je pense qu'on a su faire le taf. Et il y a le Mouloudia qui est devant avec maintenant 3 points, mais un match de retard. Donc voilà, on va se concentrer sur nous, on va faire match par match, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve, Inch'Allah.
Et le NC Maga qui a hypothéqué sérieusement ses chances de maintien en Ligue 1. L'USM Khenchla a également réalisé une bonne affaire en allant s'imposer à l'extérieur à Sétif 1-1. Donc une victoire qui permet à l'USM Khenchla de s'éloigner de la zone rouge, d'occuper, on le disait, la 11e place ex aequo avec le Mouloudia d'Oran avec 11 points. Et enfin, l'US Mostaganem, également un autre club menacé par la relégation, qui s'est imposé à domicile par la plus petite démarche, 1-0 face à l'Aïsochlef. Une victoire donc qui permet à l'ES Mostaganem d'occuper la 13e place au classement avec 30 points. Et suite et fin de cette 27e journée, Mounir, ça sera demain. avec les trois derniers matchs au programme. À 17h, le Mouloudiat d'Albiad qui affrontera le CS Constantine et la JS Saoura qui sera face au Mouloudiat d'Oran. Ça sera à 19h et le leader, le Mouloudiat d'Alger qui veut, on va dire, creuser l'écart avec la JS Kabylie et également le Chebab Riadi de Buzet qui jouera à 19h face au Paradou Athletic Club. Donc des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et on rappellera qu'après 26 minutes de jeu, le Mouloudiat d'Oran qui mène toujours 1-0 à Biskra.
Et à 18h12, Aleh Mouche avec le football, nous restant. Et la sélection nationale a fixé sur ses adversaires en Coupe arabe.
L'Algérie, championne en titre de la Coupe arabe.
La dernière édition.
Dernière édition. Donc, connaît ses adversaires à l'issue du tirage au sort effectué. Donc, hier à Doha au Qatar, la sélection algérienne à prime qui évoluera donc dans le groupe D avec notamment l'Irak et les Verts donc qui affronteront au premier tour les vainqueurs des barrages entre le Bahreïn et Djibouti et également le Liban et le Soudan pour compléter ce groupe D. Sur ce tirage au sort, on va écouter le sélectionneur national, Majid Bougaran.
C'est sûr que tout le monde attend que vous faites tout pour justement essayer de la gagner. On est des compétiteurs, on fera tout pour essayer de la gagner, même si ça va être complètement différent, beaucoup plus difficile, surtout quand vous êtes tenant du titre. Beaucoup d'équipes vont vous attendre, donc ce sera pas comme la première édition où on était quand même outsider. Le passé est le passé, le football c'est une remise en cause perpétuelle. Il faudra reprouver, jouer match après match et tout faire pour aller essayer de la gagner et bien se préparer pour ça, Inch'Allah.
On rappellera que la compétition comprend une phase de groupe suivie d'un match à élimination directe. La phase de groupe, soit les 16 équipes participantes réparties en 4 groupes de 4. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe qui comprend des quarts de finale, des demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. Et on rappellera également que la Coupe arabe de la FIFA 2025 se déroulera au Qatar du 1er au 18 décembre prochain.
Soyez donc au rendez-vous. Et en attendant, basketball, les mouches, l'heure sera demain aux demi-finales de la Coupe d'Algérie, messieurs.
Les demi-finales ou ce qu'on appelle le tournoi des As 2025, messieurs. Donc, 4 clubs, à savoir le Wydad de Boufarik, le tenant du titre, le NB Slawali, le Mouloudiat d'Alger et le Nasr Hussindé. Donc, livreront mardi, mercredi à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf les demi-finales du tournoi des As de la Super Division de basketball, messieurs, avec l'objectif de se qualifier en finale de la compétition prévue le 13 et le 14 juin à Alger. Les 4 clubs ont atteint le dernier carré de la compétition à l'issue du tournoi des playoffs disputé la semaine dernière à Alger. Outre le Wydad de Boufarik tenant du titre, le Mouloudiat d'Alger, le NB Slawali et le Nasr Hussindé ont validé leur billet pour l'avant-dernière étape de la compétition de la saison 2024-2025. Et demain, donc, à 16h, il y aura ce match tout d'abord entre le NB Slawali, le Mouloudiat d'Alger et à 19h, le Wydad de Boufarik face au Nasr Hussindé. Sur ce match, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia. Il est contacté par Rostam Yahyachev.
C'est très difficile. De un, il faut récupérer des efforts fournis lors des 3 matchs de play-off. En même temps, il faut préparer tactiquement et techniquement parlant le match contre cette redoutable équipe du Net. La seule équipe à avoir battu Boufarik chez elle. Tous ces aspects nous envoient vers une demi-finale qui sera certainement très disputée. Ça va jouer sur 2 manches. L'équipe qui a une bonne fraîcheur physique et une bonne gestion des efforts. C'est certainement cette équipe qui va gagner la rencontre et sera qualifiée en finale.
Et du côté de Nasr Hussindé, on va écouter son entraîneur, Jamal Kik, toujours contacté par Rostam Yahyachev.
C'est difficile de préparer sur le plan mental, mais on doit se préparer sur une demi-finale pour gagner, aller jouer la finale. Comme ça, au moins pour les joueurs, jouer une finale ou avoir un titre, c'est important sur leur palmarès, mais pas plus. Hein. Sinon, sur le plan financier, il n'y a rien à tirer. Et on essaie de mobiliser les joueurs, on essaie de les concentrer sur la compétition. C'est vrai, Boufarik, ils ont un effectif très riche. Ça joue sur la récupération et la fatigue. En championnat, les a battus chez eux, ils nous ont battus chez nous difficilement. C'est des matchs équilibré. Inch'Allah, on sera bien préparé, surtout sur le plan défensif et offensif.
Et mercredi, Mounir, il y aura les matchs retour avec à 16h le Mouloudiat d'Alger qui affrontera à nouveau le NB Slawali, à 19h le Nasr Hussindé face au Wydad de Boufarik. et la finale qui se déroulera également au niveau de la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Ça sera vendredi, le 13 juin à 18h. Le vainqueur de la rencontre 1 affrontera le vainqueur de la rencontre 2. Et samedi, il y aura ce match retour à 18h pour connaître le champion d'Algérie 2024-2025, messieurs.
Et à 18h16, avec vous Ali Hamouch, un mot d'athlétisme avec la 33e édition du meeting international de 4Back en France.
En effet, les athlètes algériens qui se distinguent lors de la 33e édition du meeting international de 4Back en France comptant pour le Bronze Athletics Continental Tour. Les détails avec Malik Louhla.
Deux jours seulement après sa contre-performance lors du meeting de Chorzów en Pologne, l'athlète algérien Haitem Chinitev s'est bien repris ce dimanche lors du meeting français de 4Back en remportant la finale du 800 mètres avec un chrono d'une minute 46 secondes et 29 centièmes, soit sa meilleure performance de la saison et à une seconde tout de même de son record personnel qui est d'une minute 45 secondes et 23 centièmes réalisé le 8 juin 2024 à Strasbourg. À noter que dans la même course, un deuxième Algérien a occupé la cinquième place, à savoir Zine El Abedine Lagoun, en 1 minute 47 secondes et 99 centièmes. Il y a eu également la victoire sur 110 mètres haies de l'Algérien Amin Bouanani avec une performance de 13 secondes et 68 centièmes devant le Néerlandais Jamie Cizé en 13 secondes et 78 centièmes. Amin Bouanani signe ainsi son retour après sa désillusion lors du dernier championnat arabe où il avait malheureusement raté sa course. Et pour finir, l'athlète algérienne Cheyma Wanis a signé un nouveau record personnel sur 800 mètres en 2 minutes 8 secondes et 28 centièmes, occupant la quatrième place d'une course remportée par la Suissesse Veronica Van Cardo en 2 minutes 1 seconde et 36 centièmes.
C'était donc tout ce qui concernait ce meeting de 4Back en France présenté par Malik Louhla.
Et retour au football, allez Mouche, pour parler de foot européen avec la fin de plusieurs championnats.
On va commencer par...
Et on va commencer bien évidemment avec l'anglais, tout ce qui est anglais, le football anglais.
Ah, je sais, vous adorez le foot anglais.
C'est une réponse qui marche à tous les coups.
Ah oui.
À 18h18.
Qui ne connaît pas le championnat anglais? Donc la première ligue anglaise, donc le déroulement hier de la 38e et dernière journée qui était décisive pour certains clubs pour arracher leur qualification pour les compétitions européennes. Finalement, Manchester City disputera bel et bien la saison prochaine la Champions League européenne après sa victoire hier à l'extérieur 2-0 face à Fulham. Manchester City qui termine à la 3e place au classement, derrière bien évidemment Liverpool et Arsenal. Liverpool qui a été tenu en échec pour son dernier match à domicile, 1-0 par Crystal Palace, et Arsenal qui est allé gagner 2-1 face à Southampton. Et les autres clubs qui représenteront l'Angleterre en Champions League, ça sera Chelsea et Newcastle. Aston Villa donc qui a raté de peu sa qualification pour la Champions League après sa défaite hier, oui, face à Manchester United 2-0. Donc Aston Villa ne disputera pas la Ligue des Champions européenne la saison prochaine. Il y a eu également hier la fin du championnat suisse. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a eu un exploit réalisé par l'Union Saint-Gilloise. C'est l'ex-club de l'international algérien Mohamed Amin Amoura, donc qui est devenu champion de Belgique pour la 12e fois de son histoire. 90 ans après son dernier titre de champion.
90 ans.
Absolument. Wow. Donc son dernier titre de champion de Suisse, c'était il y a 90 ans. Donc grâce à sa victoire hier 3-1 face à la Gantoise, plutôt belge. Oui. C'est pas suisse. Belge. Donc 90 ans après sa dernière victoire dans un championnat belge. Donc l'Union Saint-Gilloise qui s'est imposée face à la Gantoise 2-1. Et au Portugal, il y a eu la coupe hier avec la victoire du Sporting de Lisbonne en finale face à son concurrent direct, son rival, le Benfica de Lisbonne, 3-1. Ça vient une semaine après la fin du championnat portugais où l'AEG également, le Sporting de Lisbonne avait battu le Benfica de Lisbonne, une victoire décisive qui avait permis au Sporting du Portugal de remporter le titre de champion du Portugal. Et une autre information en sport avec ça concerne Kylian Mbappé qui a décroché donc son premier soulier d'or européen, une récompense qui pour le meilleur buteur de la saison précédente. Donc Kylian Mbappé qui termine en tête de ce classement.
Et c'est bien mérité. Et on va parler de tennis. Allez, Mocha, 18h21 minutes avec le déroulement du fameux tournoi de Roland Garros.
C'est un des tournois les plus célèbres avec Wimbledon. Ça se passe, qui a déjà débuté. Il y a plusieurs matchs pour la journée d'aujourd'hui avec une grosse surprise pour ce premier tour avec l'élimination de l'Américain Taylor Fritz, quatrième joueur mondial qui a été éliminé dès son entrée en lice. Il a été battu par l'Allemand Daniel Altmaier, 66e au classement ATP. Donc Taylor Fritz qui était, on va dire, qui n'est pas très à l'aise sur les terrains de terre battue, l'Américain, quatrième joueur mondial, l'a confirmé une nouvelle fois avec cette élimination face à un concurrent. Et pourtant, sur papier, il était le grand favori. Et à 19h15, il y aura le numéro 1 mondial, l'Italien Sinner, qui affrontera le Français Riedner Neck. Et plusieurs matchs, je le disais, qui se sont déroulés aujourd'hui avec la qualification du Norvégien Ruud, 3-7-0 face à l'Espagnol Ramos. Et également la qualification de Carlos Alcaraz, deuxième mondial, 3-7-0 face à l'Italien Zeppieri. Et Fritz, on le disait, qui a été éliminé. Tsitsipas également qualifié, le grec face à l'argentin Echeverri, et le norvégien qui s'est qualifié difficilement à 3-7-1 face à l'espagnol Bautista Agut. Donc les matchs qui se déroulent, qui se poursuivent avec un programme très riche aujourd'hui pour le tournoi de Roland-Garros. Et c'était là, Mounir, la toute dernière information.
Et un tournoi de cette année, le tournoi Roland-Garros 2025 a été marqué également par l'hommage rendu au grand Raphaël Nadal.
Absolument, Mounir. C'est des images qui resteront gravées à tout jamais dans l'histoire du tennis. Vraiment un très bel hommage qui lui a été rendu, Raphaël Nadal, grand champion de tennis.
C'est une question de temps, Alain Mouche, un hommage à Alain Mouche pour ses performances, du moins pour cette chronique.
Pas dans l'immédiat.
Si, c'est dans les médias. Ah, c'est bien. Vous m'accordez ce jeu de mots.
Je vous l'accorde. C'est un très joli de mots. Oui. Je voulais juste revenir par le match qui se déroule en ce moment pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 avec le Mouldia d'Oran qui mène toujours après 38 minutes de jeu face à l'US Biskra, 1-0. Et tout à l'heure, à 20h, il y aura ce match entre l'USM Angers et l'Olympique de Harbou que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger Chintran.
Merci beaucoup, Alain Mouche, pour toutes ces informations. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Comme à chaque fois, 18h24, je voudrais embrasser deux petites princesses qui nous ont rendu visite dans les studios. J'ai nommé Sophia Inès là où ici. Ce sont là, allez, ah, on va se permettre, hein. Ce sont là les deux princesses de notre cher réalisateur. Allez, là où ici, qui sait, d'ici là, elles seront de futures journalistes ou réalisatrices, techniciennes, qui sait. Voilà.
Qui sait, on l'espère. Hein. Yadra. C'était un beau public aujourd'hui.
Un beau public pour suivre l'actualité sportive de Alain Mouche. Merci beaucoup Alain Mouche et à très vite. À suivre la page culturelle avec Nadia Siassi. Et en attendant, je vous laisse avec cette pause musicale. Restez avec nous. Adèle et son magnifique titre « Set Fire to the Rhine ». To stand in your arms. Parmi les magnifiques et les meilleures voix de la musique et la chanson anglo-saxonne, une bête de scène, j'ai nommé Adele. Sur les ondes, je chante dans Set Fire to the Rain. À 18h29 minutes, place au volet culturel, je le disais en début de votre magazine. Et elle est notre guide Nadia Siassi du côté de la galerie Mohamed Rassim à Alger Centre, où une magnifique exposition de peinture orientaliste est visible. Je vous invite à suivre Nadia Siassi dans cette magnifique visite guidée.
Sadar Messer, psychologue de formation, auteur d'ouvrages retraçant l'histoire de l'Algérie. Il consacre tout son temps à la collection de livres, de photos et des tableaux qui nous rappellent l'Algérie ancienne.
Alors nous avons un tableau de Maurice Bompard qui représente un campement près de Biskra. Alors Maurice Bompard est un grand peintre orientaliste du 19e siècle. Et c'est un tableau qui a été peint dans les années vers la fin du 19e siècle et qui est un tableau de qualité musée. Ensuite, on continue toujours dans le sud, on va à Rardaya avec le peintre Maurice Pouviol qui nous présente une vie d'un marché aux moutons à Rardaya. Maurice Pouviol qui est aussi un grand peintre de l'époque orientaliste. Après ça, on se trouve face à un beau portrait représentant un couple signé Miloud Boukherch. Miloud Boukherch travaille un peu dans le style de Dinet avec une grande correspondance des traits des personnes, un portraitiste quoi. Et puis en plus nous avons une quarantaine de gravures orientalistes qui ont été faites en 1848 qui représentent divers paysages d'Alger et de l'Algérie.
On sillonne notre pays à travers la peinture et pour chaque région, nous avons des scènes de vie différentes.
C'est une collection qui est axée sur l'Algérie. Alors donc du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le choix s'est fait sur toujours le mot patrimoine Algérie. Nous avons de très nombreuses vues de la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger est pratiquement la partie de l'Algérie qui a été le plus peinte et photographiée par les artistes. Alors nous avons des vues de Constantine, nous avons des vues de Skikda, de Tipaza, nous avons un ou deux tableaux sur la région d'Oran. Donc c'est un peu toute l'Algérie qui apparaît dans cette collection.
En quoi consiste le métier de collectionneur? Comment on entretient le métier de collectionneur?
Alors déjà, je dirais que collectionneur n'est pas un métier, c'est beaucoup plus une passion qu'on a dans un domaine. Comme vous savez, il y a des collectionneurs de tableaux, il y a des collectionneurs de voitures, il y a des collectionneurs de montres, de timbres, de cartes postales. C'est-à-dire qu'on s'oriente vers quelque chose qui nous accroche. Pour ma part, je suis collectionneur de tout ce qui concerne l'Algérie. C'est-à-dire que dans ma collection, on retrouve déjà au premier plan des tableaux, on retrouve des cartes postales, qui sont chez moi évidemment, des timbres, des livres, beaucoup de livres sur l'Algérie, qui m'ont servi d'ailleurs à écrire des livres sur l'histoire d'Alger, par exemple. Donc, on devient collectionneur, je pense, par passion, pour l'objet et pour ce qu'il représente.
Je vous invite à découvrir les trésors de la peinture orientaliste de Sadar Messer à la galerie Rassim de l'avenue Pasteur, visible jusqu'à la fin de ce mois.
En tout cas, elle est visible jusqu'à la fin du mois, nous disait Nadia Siassi. Il est de retour, allez, Hamouche, du nouveau, allez.
Ouais, l'ambiance du studio m'a manqué, donc je suis vite revenu. C'est juste...
Vous attendez l'hommage.
L'hommage. Ouais.
Pas dans l'immédiat, on
dit. Pas dans l'immédiat.
Mais en tout cas, dans l'immédiat, place à l'actualité sport avec la rencontre
qui se joue en ce moment même. Il reste quelques secondes de ce premier match de cette suite de la 27e journée entre l'US Biskra et le Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Oran qui a rajouté un deuxième but, donc qui mène désormais 2-0 face à l'US Biskra. L'US Biskra, on le disait, l'équipe qui a les deux pieds en Ligue 2. Et l'arbitre de la rencontre qui a rajouté 2 minutes de temps additionnel. On a déjà consommé les 2 minutes. Il va certainement siffler dans quelques secondes
bon, la fin. En faveur, bien évidemment.
Absolument. En faveur du Mouloudia d'Oran, 2-0 avec les Hamraoua. C'est les supporters du Mouloudia d'Oran.
Oui,
on les appelle
sais,
les Hamraoua.
Bien évidemment.
C'est pas le club.
Les Hamraoua qui sont contents.
Absolument.
Ça, c'est clair.
Et à l'instant même, donc, l'arbitre de la rencontre qui siffle la fin de cette première mi-temps sur, cette avance du Mouloudia d'Oran. 2-0 face à l'US Biskra. On le rappellera pour le compte de la 27e journée du championnat de Ligue 1. Il sera suivi de cette rencontre, on le rappellera, à 20h entre l'USM Alger et l'Olympique de Arbo. Ça sera à 20h en direct sur les ondes d'Alger Chain 3.
Ce qui est sûr, vous méritez un hommage et plus, c'est Ali Hamouche.
Merci à vous.
À 18h34, c'était Ali Hamouche pour les dernières news s'agissant, pardon, la rencontre qui se déroule en ce moment même, fin de la première mi-temps en faveur du Mouloudia Club d'Oran. Et au grand bonheur, je le disais, des Hamraoua, les supporters de ce magnifique club de la radieuse Oran. À suivre, bien évidemment, toujours la suite du volet culturel. En attendant, place à la musique avec la belle voix de la diva de la nouvelle scène musicale, enfant de l'association musicale Radar al-Gharnatiya de Qlea. Aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes avec ses magnifiques productions musicales et aussi sa voix qui se distingue dans ce magnifique cover Rah el Ghali Rah, signé Nawel Iloul.
I need you.
Avec son instrument vocal et cet magnifique arrangement musical dans ce magnifique cover, la belle voix de la diva j'ai nommé de la nouvelle scène musicale algérienne, j'ai nommé Nawel Hilloul à 18h42 minutes sur les ondes d'Alger Chain 3. Il y a 18h42 minutes, rappel des titres de l'édition du soir présenté à 19h pile par Nesrine Dermoun. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside une réunion de travail consacrée à la mise en service du guichet unique. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail d'inspection dans la deuxième région militaire. Le ministre du Travail présente ce lundi à l'Assemblée populaire nationale le projet de loi relatif à la réduction de l'âge de la retraite dans le secteur de l'éducation. Numérisation de l'administration foncière, le livret foncier électronique remplacera graduellement le format papier, annonce le directeur général des domaines qui était l'invité du forum de la chaîne Une de la Radio Nationale. Et puis ouverture de la 23e édition, ou plutôt du 23e Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie Sipsafilaha, avec la participation de 800 opérateurs algériens et étrangers issus de 40 pays, dont l'Italie, invité d'honneur de cette édition. Et dans l'actualité internationale, dans le dossier palestinien, le Hamas pourrait accepter une nouvelle proposition des médiateurs pour une trêve de 70 jours contre la libération d'une dizaine de prisonniers de guerre israéliens. Au sommaire de l'édition du soir, les nouveaux droits de douane annoncés par le président américain pour le début du mois de juin, reportés au 9 juillet prochain. Les négociations se poursuivent ce lundi entre Washington et Bruxelles. Et puis, sport football, suite de la 27e journée de Ligue 1, deux rencontres au programme, US Biskra, nous le dit avec le club d'Oran qui vient de commencer, et à 20h, USM Alger, Olympique d'Herbourg. C'était là donc le sommaire de l'édition du soir de Nesrine Dermoun, prévu à 19h pile. À suivre au volet culturel, place au métier du cinéma. Il y a toujours de cela, l'Algérie et le cinéma mondial perdait l'un de ses monuments. J'ai nommé Mohamed Lakhdar Hamina. Mohamed Lakhdar Hamina, rappelez-vous plutôt, né le 26 février 1934 à Msila et décédé le 23 mai dernier à Alger. Un acteur, réalisateur, producteur et scénariste algérien. Il remporte, souvenez-vous, la Palme d'Or en 75 pour son film Chronique des années de braise, la seule palme d'or du cinéma algérien, et il est le premier réalisateur maghrébin africain à remporter cette distinction. L'occasion pour nous, pour notre journaliste Selim Brahimi, de s'intéresser au métier du cinéma, tout métier confondu, à travers ce reportage.
Parlons 7e art aujourd'hui et on ira dans les coulisses de la création d'un film en Algérie et ailleurs. Un véritable voyage créatif, collectif et passionné où chaque métier compte. Tout commence par une idée, une vision, celle du scénariste. Souvent dans l'ombre mais sans qui rien ne commence. Il ou elle écrit une histoire, des dialogues, des émotions. En Algérie, des scénaristes talentueux comme Anis Djaad ou Yasmine Chouir, ceux de la nouvelle génération, à titre d'exemple, ont su capter les nuances de notre notre société entre tradition et modernité. Puis entre en scène le réalisateur. Il donne vie au scénario, il imagine chaque plan, chaque silence, chaque souffle. Pensons à Ahmed Rachdi ou feu Mohamed Lakhdar Hamina, qui incarne cette génération de pionniers du cinéma, audacieuse et engagée. Mais un film n'est pas qu'un regard, c'est aussi une image. Le directeur de la photographie, lui, sculpte la lumière en Algérie, où les paysages vont des étendues désertiques sableuses ou rocheuses aux montagnes enneigées passant par les côtes à la mer bleu-azur. Ce métier est essentiel pour capter l'âme des lieux. Parlons des comédiens et comédiennes. Bien sûr, ils incarnent les personnages, les héros, leur donnant chair et émotion. Des noms comme Sidi Ahmed Dagoumi, Chefi Aboudra et bien d'autres traversent déjà les frontières du temps pour nous faire rêver. Et que serait un film sans décor et costumes? Le chef décorateur et costumier replonge le spectateur dans une époque, un univers. Dans une production algérienne, cela signifie souvent recréer l'ambiance d'Alger, de la Casbah dans les années 60 ou d'un village de l'intérieur du pays oublié. N'oublions pas le compositeur et le monteur son. Le son, c'est l'âme invisible d'un film, des chants traditionnels à la musique contemporaine. Ils enrichissent l'expérience sensorielle en leur donnant du relief. Enfin, le monteur entre en scène, il assemble les images, coupe, rythme, structure. C'est lui qui donne au film son souffle final. En Algérie, malgré les défis de production, les artistes du cinéma font preuve d'une résilience admirable. Avec peu de moyens mais beaucoup de talent, il continue de raconter notre pays, ses exploits, son histoire et ses espoirs, ainsi que ses rêves. Ces métiers cités ne sont que des exemples de métiers principaux pour la production d'un film cinématographique. N'oublions pas le producteur, le script, les techniciens en tout genre. Bref, toute une nomenclature de métiers qui s'emboîtent, reconnus par le ministère de la Culture et des Arts dans le domaine cinématographique. Voilà, vous savez maintenant qu'un film, ce n'est pas juste une histoire, c'est une œuvre collective, un art tissé par des dizaines de mains, toutes essentielles à sa réussite.
Il faut noter aussi que la production cinématographique, ce sont là des mois de tournage pour enfin avoir les scènes et les prises voulues par le réalisateur et avoir un film enfin visible dans les salles obscures ou à travers des applications. À 18h48 minutes, c'était un reportage signé Selim Brahimi qui rendait hommage au métier du cinéma. Il avait dit pas à la fin que ce sont là quelques métiers de ces cette liste interminable des métiers du cinéma du 7e art. Rendez-vous à 18h, à 19h pile avec Nesrine Hamoun et l'édition du soir, juste après des aides jeunes avec notre amie Leila Dubourg qui met la lumière sur les talents de notre jeunesse algérienne. En attendant, musique. Nostalgie avec, rappelez-vous, Nelly Furtado, Say It Right. 18h54, il est l'heure de se quitter. Un grand merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. C'était là le 17-19, le mag de ce lundi 26 mai 2025. Était à la régie d'antenne, j'ai nommé Kram Waked, à la console technique Sader Habiresh et Nesline Gazel, bien évidemment, également Alé Laouissi à la réalisation de votre magazine. À 19h pile, Nesline Dahmoud et l'édition du soir. Quant à nous, on aura le plaisir de se revoir à partir de 17h06 de mercredi. Carrière foot, demain on va s'éclipser, on va plutôt, le magazine va s'éclipser, on va s'absenter. En attendant, prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Ciao, ciao.